Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Le Made in France, on en parle beaucoup en ce moment dans le débat public. Un grand salon s'ouvre d'ailleurs demain à Paris.
Le salon du Made in France s'est tenu pendant 4 jours à Paris. Il y avait foule pour découvrir le savoir-faire des 830 exposants, des consommateurs lambda, des investisseurs et des politiques. Année présidentielle oblige. Hervé Morin, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot, dans l'ordre d'apparition, plus quelques ministres.
Nous, forcément, on a vraiment de plus en plus des clients, oui. Alors, pas que sur les salons, aussi sur nos boutiques. Il y a vraiment une prise de conscience, surtout depuis le Covid, où vraiment les gens ils cherchent à consommer des choses qu'ils ont faites vraiment pas loin. Donc, c'est vraiment... Il y a un rejet un peu de tout ce qui vient d'Asie, en fait, voilà.
Mais dans cet épisode de la story, j'avais plutôt envie d'écouter ceux qui font le Made in France, à l'image d'Heidi, qui travaille pour la marque Made in Sense. Ils sont de plus en plus nombreux à faire ce choix, et vous allez l'entendre, ce n'est pas si simple. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des Échos.
Car ces millions de macarons, symboles du Made in France, sont en fait fabriqués chez nos voisins, en Suisse.
Ça croustille et c'est moelleux à l'intérieur. Le macaron Made in Switzerland, la découverte de compléments d'enquête. Une seule usine dans le monde pour fournir aussi les boutiques françaises. Le site de Morangis en France ne produisant plus que des glaces et des viennoiseries. Si la durée a préféré l'air pur et fiscal de la Suisse pour fabriquer ses macarons, d'autres ont fait le choix de la France. Sur le salon du Made in France, on trouve beaucoup de petites entreprises, mais aussi quelques-unes plus grosses comme les radiateurs Thermor, les shampoings Dop ou les voitures sans permis Exam. Le Made in France attire de plus en plus les consommateurs, les médias et les investisseurs. Les relocalisations sont aussi en hausse. À l'image de la dernière annonce en date, les opticiens Chris vont investir 16 millions dans leur usine de Bazainville pour produire 400 000 verres de plus par an, pour remplacer les achats effectués auparavant en Asie. Dans ce deuxième épisode de la story consacrée au Made in France, je vous propose de rencontrer des entreprises qui ont fait le choix de produire localement.
Nos nouvelles lipes sont électroniques. Voilà, par exemple celle-ci, une lip électronique à quartz, lecture classique à aiguille.
Maintenant, nous pouvons parler d'avenir, conclut M. Milan, c'est le directeur de recherche de LIP, dans cette archive de l'INA qui date de 1975. LIP est déjà à Besançon, la capitale française de l'horlogerie aux portes de la Suisse. Elle y a été de sa création en 1867 jusqu'à sa faillite en 1977, puis de retour en 2014 après quelques péripéties et un long passage en Chine. Bonjour Pierre-Alain Bérard.
Bonjour, merci de m'inviter.
Je vous en prie, vous êtes directeur général de la maison LIP. Le Made in France, c'est vraiment dans l'ADN de LIP?
Le Made in France, c'est dans l'ADN de LIP. Je dirais même plus, c'est le Made in Besançon pour nous qui est important, puisque Besançon, c'est la capitale de l'horlogerie française. C'est un savoir-faire qui est implanté régionalement depuis quasiment 2 siècles. Et LIP est né à Besançon en 1867. Donc LIP sans le Made in France, effectivement, ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce qui a motivé le retour en Chine en 2015?
Donc LIP est revenu à Besançon en 2015, effectivement, après une parenthèse un peu compliquée où je dirais que des financiers ont un petit peu galvaudé la marque. Ce qui a motivé le retour de LIP à Besançon en 2015, c'est l'envie de refaire des produits de qualité. Et puis, c'est l'envie de se dire que le départ de LIP de Besançon n'est pas une fatalité et que quand on veut, on peut.
Est-ce que ça a été compliqué, sachant que vous vouliez fabriquer une montre de qualité, certes, mais aussi populaire, autrement dit pas trop cher.
Fabriquer en France, ça reste un défi. Il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps. Leap, aujourd'hui, c'est vraiment une marque qui se positionne avec un excellent rapport qualité-prix. Nous ne sommes pas une marque de luxe. Hein. Chez nous, par exemple, vous ne trouverez pas de pièces avec des diamants. Et effectivement, trouver le juste prix, la juste valeur par rapport à ce que peut être un produit made in France, c'est vraiment quelque chose où il faut travailler tous les jours. Après, on n'est pas tout seul, on a des partenaires, on a un tissu local de sous-traitants. Alors quand je dis local, ils sont français et ils sont également suisses, hein, puisque la frontière, nous, est toute proche.
L'assemblage se fait en France, mais les boîtiers et cadrans restent fabriqués en Chine. Pour quelles raisons ?
Donc l'assemblage est français, effectivement. Sur tout ce qui est en acier, on travaille avec la Chine puisque aujourd'hui c'est très compliqué, sortie des pièces très haut de gamme, des boîtiers or ou platinium. Aujourd'hui, pour le travail de l'acier, c'est vraiment la Chine qui est le fournisseur principal et presque unique. Voilà. Après, sur les composants, quand on peut faire français ou faire européen, on essaye au maximum d'acheter local. Donc, sur le prix de revient d'une montre, entre le français et le suisse, on arrive quand même à avoir la majorité du prix de revient sur l'Europe, en tout cas.
Mais dans certains cas, effectivement, si je comprends bien, vous n'avez pas le choix que de vous fournir relativement loin. Quels sont les freins aujourd'hui à une relocalisation plus complète ?
Pour prendre l'exemple le plus criant de l'horlogerie, qui est le mouvement, puisque c'est vraiment le cœur de la montre. Aujourd'hui, des fabricants de mouvements français, je dirais à grande échelle, il n'y en a plus. Et on est sur quelque chose qui nécessite des montants d'investissement très importants. Donc c'est vrai que pour une PME comme nous, la marge d'escalier à grimper est vraiment très importante, voire trop importante. Et pour ce faire, il faut, un, qu'on arrive à mobiliser les différents acteurs du marché, en clair, à se mettre d'accord entre concurrents pour utiliser le même mouvement français. Ça, c'est déjà une première étape qui est loin d'être facile. Et puis deux, il va nous falloir également des aides au niveau régional et au niveau de l'État, en tout cas pour démarrer la machine, parce que seul dans l'état actuel des choses, les investissements sont trop lourds pour une marque comme Leap.
Pierre-Alain Bérard, le retour en France de cette unité d'assemblage, est-ce que ça s'est fait au détriment de la rentabilité ?
Alors, une unité d'assemblage sur France, effectivement, c'est beaucoup moins rentable que de tout fabriquer en Chine, par exemple, ou à d'autres pays à bas coût. Après, nous, on a fait le choix du Made in France, un, par patriotisme économique, deux, parce que une marque patrimoniale comme Leap n'a de sens que si elle est fabriquée en France. Donc, j'ai envie de dire, l'aspect rentabilité était presque secondaire. Alors, effectivement, il faut être rentable, sinon une entreprise ne tient pas debout. Mais c'était pas là notre première volonté. Notre première volonté, c'était de faire vivre Leap en France et à Besançon.
On va le préciser, un Leap est rentable d'ailleurs, hein, vous gagnez de l'argent. Mais est-ce que le Made in France, ça fait vendre ?
Le Made in France nous aide à vendre, je dois dire, depuis la crise du Covid. On a vraiment vu, nous, un virage, puisque ce qui faisait doucement sourire tout le monde en 2015 quand on a redémarré la production française, aujourd'hui ne fait plus du tout rigoler. Parce que je pense que les gens se sont rendus compte de l'absolue nécessité pour nos pays, ou même plutôt à l'échelle européenne, de conserver un certain nombre de savoir-faire, parce que sous-traiter, que ce soit la fabrication de médicaments ou d'autres produits comme les voitures ou l'horlogerie, tout sous-traité dans des pays lointains, ça peut rapidement poser des gros problèmes.
Le sceau de l'Élysée apposé sur un cadran Leap, c'est un peu l'histoire de la marque qui se perpétue. Le général de Gaulle avait eu son propre modèle. Emmanuel Macron a choisi, lui, d'en faire un objet emblématique du Made in France, comme une centaine d'autres produits qui seront distribués par l'Élysée.
L'Élysée distribue la Dauphine, c'est la montre bleu-blanc-rouge de Leap. Le président l'a portée de temps en temps à son poignet. Alors, il en a porté d'autres, comme la Mansart de la jeune marque française March Lab. C'est un bon ambassadeur de la marque.
Alors oui, on est très fiers que le président Emmanuel Macron ait porté une montre Leap. Il change souvent, mais effectivement toujours des marques françaises. Et ça nous fait très plaisir qu'une montre sortie des ateliers de LIP des ateliers de Besançon soit au bras de notre président.
Aujourd'hui, LIP fabrique environ 40 000 montres en France. En 1954, à son apogée, la société employait environ 1 500 personnes et fabriquait 300 000 montres par an.
Nous sommes fiers d'avoir créé et fabriqué en France notre machine expresso recyclable, économe en énergie, garantie 5 ans.
On ne fait pas pousser de café en France, mais on en boit beaucoup. Chaque Français en consomme près de 5,5 kg par an, loin toutefois des pays scandinaves, de la Belgique ou du Canada. Mais de la cerise de café au petit kawa du matin, il est une étape indispensable, la machine à café. Chez Malongo, depuis septembre, la cafetière Neo Made in China laisse la place à la EO Made in Vendée. Bonjour Jean-Pierre Blanc.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général des cafés Malongo. La marque a lancé une nouvelle machine à expresso entièrement fabriquée en France. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Alors, ce qui a motivé ce choix, c'est la volonté de la marque d'être dans la continuité de ses actions. Vous savez que nous déployons le café du commerce équitable depuis 1992 et on développe des coopératives pour essayer de donner un revenu décent à chaque producteur. Et dans le même esprit, nous avons lancé en 1997 notre système à dose en papier naturel, qui est le seul système aujourd'hui sur le marché. Et nous avions été contraints à l'époque de fabriquer nos produits en Asie, en Chine notamment, parce qu'il n'y avait pas de fabricants en Europe et en France capables de le faire. Et pendant toutes ces années, bien sûr, ça me gênait beaucoup et je comprenais pas pourquoi on pouvait pas faire du Made in France. Et donc, il y a 4 ans, j'ai décidé de faire un pari. C'est un peu comme un sacerdoce. Avec toutes les équipes, on s'est mobilisé. On a embauché 4 ingénieurs et techniciens. Et en 4 ans, on a imaginé une machine avec un nouveau concept qui est de dire, pour fabriquer en France, il faut 1, de l'innovation. 2, il faut anticiper tous les cycles de préparation et de fabrication. Et 3, il faut assurer un service supplémentaire aux consommateurs. Donc, on a travaillé sur l'éco-conception de la machine, c'est-à-dire une machine de faible taille sur laquelle on a diminué le nombre de composants. On est passé de 140 pièces à 70 pièces pour simplifier le montage et évidemment diminuer les coûts et augmenter la productivité. Et on a intégré des fonctions complémentaires qui sont le service après-vente 3 années supplémentaires, c'est-à-dire que ces machines sont garanties 5 ans aux consommateurs. Et en plus, ils sont garantis avec un échange à domicile en cas de panne et une plateforme d'écoute téléphonique qui se trouve à Nice, donc en France, où il y a des vrais gens qui vont répondre à des personnes qui peuvent avoir des problèmes. Voilà. Donc, on a essayé d'apporter du service avec un juste prix pour le consommateur, qui est un prix à 119 €, alors que généralement, les produits de type dosette, capsule, sont plutôt subventionnés par les marques. Et tout ça pour avoir un prix de dose les moins chers du marché. Ce que nous voulons, c'est démocratiser la dose, c'est-à-dire simplifier son utilisation, qu'elle soit de qualité et que la machine soit utilisable pendant un grand nombre de cycles, puisque nous avons fait des crash tests sur cette machine, des crash tests qui vont jusqu'à 15 000 cycles café sans panne, c'est-à-dire que vous pouvez la garder une 30aine d'années. Et nous sommes en train d'organiser, après la période de garantie, le reconditionnement des machines pour une deuxième vie que nous allons remettre en vente à un prix inférieur sur un atelier qu'on est en train de créer à Carros, à côté de Nice.
C'est moins rentable de produire en France ? C'est un coût supplémentaire ?
Alors, bien sûr, il y a un petit coût supplémentaire pour produire en France. Mais quand on a anticipé les différents systèmes, quand on a réfléchi autour de l'unité de montage, d'avoir la plupart des sous-traitants dans un rayon de moins de 100 km, quand on a diminué le nombre de pièces, on est capable d'avoir des prix qui sont pas les mêmes, mais qui approchent très largement le prix de la Chine. Vous n'avez pas le transport, et quand on connaît le coût du transport aujourd'hui. Mais c'est, avant de parler de coût et de prix, c'est de parler de cette volonté, de cette capacité aux entreprises de revenir sur leur propre territoire. Il n'y a aucune raison de ne pas être capable de le faire sur son propre territoire. Autant je suis engagé dans le commerce équitable, bien sûr, dans les pays du Sud, il n'y a pas de café chez nous, mais autant je trouve que basculer sur du Made in France, c'est ramener chez soi une partie de nous-mêmes et aider les consommateurs à trouver une autre voie. C'est-à-dire, c'est plus des produits qu'on achète pas cher et qu'on jette au bout d'un an ou au bout de deux ans, c'est des produits qu'on garde, c'est des produits qui ont une seconde vie et c'est des produits qui font travailler des gens à la production, travailler des gens au service après-vente. Donc, c'est-à-dire, c'est créer cet ensemble d'écosystèmes qui devraient nous permettre de retrouver à la fois de l'emploi et de simplifier aussi les activités de commercialisation.
Alors vous avez trouvé un sous-traitant, ProLab, qui est situé en Vendée. Ça a été facile de trouver un partenaire en France ?
Non, c'est très compliqué. Il n'y a plus de partenariat en France. Et c'est pour cette raison que nous, on a travaillé beaucoup en amont. 4 ans, 1,9 million d'investissements chaque année pour pouvoir arriver à trouver des solutions pour produire en France. C'est très compliqué parce que vous avez plus de savoir-faire, vous avez plus de réseau et sur tout ce qui est, petit matériel, c'est très compliqué donc de recréer quelque chose. Mais comme pour nous, l'objectif, c'est plutôt de réussir. Hein. C'est un pari fou. On est sorti de notre zone de confort. Hein. Pour un torréfacteur, se mettre à fabriquer en France, ça peut paraître une utopie. C'est pas une utopie. Je pense que c'est une volonté, c'est un choix politique qui nous permet d'être différents des autres et de tenir compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la demande du consommateur pour des produits vrais, même si de temps en temps, il est tenté par les prix, bien sûr, des produits qui ont du sens, des produits qui vont durer et qui correspondent à ce que souhaitent les nouvelles générations. Donc je pense qu'on est peut-être un peu en avance, mais je pense qu'il fallait le faire et c'était un peu normal que notre marque Malongo le fasse.
On a beaucoup parlé effectivement de l'électroménager qui s'apparente depuis plusieurs années à du jetable. Vous avez pris un pari complètement différent avec la volonté d'offrir un produit qui avait une plus longue durée de vie. Là aussi, c'est un peu en marge par rapport aux pratiques que l'on retrouve de plus en plus dans l'électronique grand public d'ailleurs et pas seulement dans l'électroménager.
Oui, je pense que la tendance, on le voit dans les voitures aussi, qui peuvent être garanties 7 ans, etc. Donc, il y a une tendance à faire des produits qui durent, mais quand on regarde les pourcentages aujourd'hui, on est jusqu'à aujourd'hui sur de plus en plus de jetables, c'est-à-dire d'appel prix, premier prix, de produits subventionnés, de casse de prix. Je veux dire, c'est faire comprendre aux consommateurs, et c'est un peu l'esprit dans lequel on s'inscrit, que chaque chose a un prix et un vrai prix. Et cette chose-là, il faut qu'on lui donne les éléments pour qu'il comprenne que ce prix-là, finalement, quand il aura fait ses comptes au bout de 5 ans, cette machine lui aura coûté moins cher que si il avait pris une machine à 30 €, 40 € ou 50 € ou même à 1 €, puisqu'il y en a certains qui font presque don de la machine et qui vendent très cher les doses. Donc, c'est faire comprendre que chaque chose a un prix. Derrière chaque prix, il y a des hommes et des femmes qui travaillent. Il faut que ces prix soient raisonnables, soient acceptables et apportent du service et dans le temps coûtent moins cher aux consommateurs.
On a un produit qui fait partie de notre patrimoine culturel. L'espadrille est assez connue dans le monde pour être fabriquée en France. Donc il y a un bon savoir-faire qui est existant depuis à peu près plus de 200 ans. Donc l'espadrille, ça c'est bien. C'est vrai qu'il y a 30 ans en arrière, le marché chinois a quand même envahi le territoire. C'est ce qui a fait que beaucoup d'usines industrielles se sont cassées la gueule ou ont fermé. Du coup, on est là, essayer pour mettre un coup de fraîcheur à l'espadrille et remonter la pente en montant notre propre usine de fabrication à Perpignan, en complément de celle de Mauléon.
C'est un gros investissement ?
Oui, c'est un gros défi. Et il faut y aller petit à petit. Et, voilà, c'est une belle aventure, mais c'est quand même un gros investissement d'un peu plus d'1,5 million.
Vendredi, je me suis donc rendu au salon du Made in France, porte de Versailles à Paris, pour sentir l'ambiance et pour rencontrer des entrepreneurs. J'ai fait un arrêt sur le stand Payotte, où j'ai rencontré son fondateur, Olivier Gélis, qui a fait le pari de fabriquer des espadrilles colorées entre Perpignan et Mauléon. Et ça partait assez vite, malgré des températures peu estivales. Il y avait de tout, de l'alimentaire, des boules de pétanque, des coussins et des chaussettes. Beaucoup de chaussettes.
Je suis Aymeric Brousseau, je suis la troisième génération de Maison Brousseau qui fabrique des chaussettes, donc depuis 1938 à l'écart, un petit peu en dessous de Limoges.
Pourquoi fabriquer en France ?
Pourquoi fabriquer en France ? Ben en fait, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que c'est mon grand-père qui a créé la boîte. Et aujourd'hui, ben, pour nous, même si on a connu des années noires, 96, 2006, on a repris la boîte avec ma femme en 2006, derrière la liquidation de mes parents, qui avaient beaucoup souffert des années 90. Et on s'est toujours dit, mon grand-père m'a toujours dit je ferai des chaussettes. Et du coup, ben, quand c'est fermé, on s'est dit avec ma femme était ouvrière, je l'ai rencontrée dans l'usine. Et on s'est dit, ben, on va reprendre la boîte. Même, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on est reparti de zéro.
Vos bas et vos chaussettes sont fabriqués dans un petit village, hein, 500 habitants près de Limoges. C'est le lieu historique de l'entreprise. C'est pas trop compliqué pour trouver de la main-d'œuvre et des clients ?
Alors, trouver des clients, non. On a la chance de pouvoir trouver des clients vraiment grâce à Internet aujourd'hui dans le monde entier. La main-d'œuvre, je vous avoue qu'il y a des fois, c'est très très compliqué. Parce que moi, du temps de mes grands-parents, c'était de mes parents, c'était souvent par exemple des gens qui étaient paysans, qui avaient leur travail de paysan, puis qui venaient à l'usine pour faire un complément de salaire. Donc c'était assez facile de trouver du monde. Aujourd'hui, nous, c'est très très compliqué. On est obligé de recruter partout. On a un bassin d'emploi qui est très très large, mais on a aussi même des techniciens qui viennent de l'autre bout du monde, qu'on embauche. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu, il n'y a plus d'école dans notre métier. Donc il faut former. Et quand on a la chance de trouver quelqu'un qui est déjà formé, qui connaît un peu notre métier, ben on le recrute directement.
Quand vous avez repris l'entreprise, il y avait 4 personnes, je crois. Aujourd'hui, vous êtes environ 70 salariés, ce qui n'est pas rien. Ça n'a pas été simple, j'imagine, de grossir ?
Non, en fait, on vient en plus d'un monde qui était traumatisé. Il faut savoir que mes parents avaient pris le virage de la grande distribution, qui était à cette époque-là formidable. Des gros volumes, des grosses quantités, donc de l'investissement machine, de l'investissement personnel. Mais le problème, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que ces gens-là, un jour, ils allaient partir. Et ça, ça a été le plus dur pour mes parents, parce qu'ils se sont pris l'arrivée de ce qu'on appelle la chaussette fantaisie, il a fallu investir sur du nouveau matériel et ces nouveaux clients qui sont arrivés. Donc ils ont vécu 10 bonnes années, des années de folle, et puis ils ont aussi vécu 10 années de galère. Donc ça a été dur pour eux. À la fin, mes parents, ils étaient épuisés et pourtant ils aimaient ce produit-là, ils aimaient ce qu'ils faisaient, donc c'était compliqué. Et nous, on est reparti avec une autre clientèle, une nouvelle clientèle, des gens comme Le Cid Français, comme Archiduchesse, des nouvelles marques, une nouvelle façon de distribuer direct aux consommateurs. Ça, c'était vraiment très nouveau.
Vos chaussettes, elles coûtent 15 euros pour les deux pieds, je précise. C'est le coût du Made in France ?
Alors, c'est le coût du Made in France, oui, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment les mêmes machines qu'à l'autre bout du monde. On paye les matières quasiment identiquement, mais après, on a un coût de salaire qui n'est pas les mêmes. Et puis, en fait, dans votre coût de chaussettes aujourd'hui, il faut savoir ce que vous voulez. Il y a du Made in France qui existe aux alentours de 10 euros, 8 euros, mais ce qu'on appelle direct producteur. C'est-à-dire, là, vous venez vraiment à l'usine, vous achetez vos chaussettes. À partir du moment où vous avez un réseau de distribution, en fait, vous allez faire travailler beaucoup plus de monde. Quand moi je vends mes chaussettes à 15 euros, c'est parce que j'ai un revendeur qui a certainement une salariée pour vendre dans sa boutique, j'ai un commercial, j'ai du stockage, c'est ça que vous payez aujourd'hui. Dans nos marques à nous, des petites boîtes comme nous, vous payez véritablement tout ça. Vous payez pas que de la com ou je ne sais pas quoi ou du marketing là-dessus.
Est-ce que vous avez ressenti depuis la crise sanitaire un mouvement en faveur du Made in France ?
Oui. Oui, clairement. Nous, déjà, avant, je le disais, souvent, on travaillait pour des tribus, des gens qui aimaient le Made in France. Mais aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ça a fait prendre conscience à plein de gens qui pouvaient perdre leur travail. Enfin, il y a eu toute une prise de conscience supplémentaire. Donc, je pense que le Made in France et l'élan du Made in France est durable, maintenant.
Vous avez vu passer beaucoup de monde sur le salon. Là, quand je suis arrivé, vous étiez en train de faire une vente. Qu'est-ce que les visiteurs, les consommateurs vous disent ?
Alors, déjà, les visiteurs qui viennent sur le salon du Made in France sont déjà des initiés, sont des gens qui viennent ici tout en sachant qu'ils vont repartir avec des produits Made in France. Donc c'est de la clientèle qui est très agréable à voir pour nous parce qu'ils sont déjà hyper engagés. C'est pas des gens qui vont nous dire ah ben oui moi j'achète mes chaussettes à 2 euros à Babou je sais pas où. Ils viennent déjà avec la culture du Made in France. Donc ça c'est intéressant pour nous.
On a vu plusieurs personnalités politiques passer sur le salon durant ces 4 jours. Hein. Ils sont pas tous là mais presque. Vous en avez rencontré et qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ?
Alors non parce que moi je les titille un peu, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, vous avez vu tout à l'heure notre président de région Nouvelle-Aquitaine qui est passé, eh bien, qui a acheté 10 paires de chaussettes. Bah, c'est le premier que je vois venir pour nous acheter 10 paires de chaussettes. Tous les autres politiques aujourd'hui, on les voit, ils viennent sur le salon se montrer, mais aucun n'a un sac, aucun n'achète. Donc déjà, je pense qu'il faudrait déjà donner l'exemple, tout simplement, qu'ils achètent français. Alors peut-être qu'ils le font à titre perso, mais je crois qu'il faudrait qu'ils le fassent encore plus sur le salon, pour montrer, pour dire voilà, on vient sur le salon, mais notre engagement du Made in France, c'est aussi bah, en tant que consommateur, j'achète une chaussette, un pull, un caleçon, une couette, je sais pas, mais je repars avec quelque chose pour montrer. Là, aujourd'hui, je les vois repartir sans rien. C'est ça que je trouve dommage.
Merci Émeric Brousseau, Jean-Pierre Blanc, Pierre-Alain Bérard et tous les acteurs du Made in France. J'en ai d'ailleurs profité pour quasiment boucler mes cadeaux de Noël. La story des échos s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée dans le 15e arrondissement de Paris par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the science-y stuff, like research and testing to create shoes from natural materials. Like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science. It's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.